Chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. Au micro, la belle à Laurence, assistée de façon efficace et souriante par Benoît. Merci Benoît. La belle Laurence, donc, dans le cadre de ce libre journal des traditions, en matinée, puisque nous avons maintenant ce nouvel horaire qui est bien pratique. Et j'ai la joie de recevoir cet après-midi l'abbé Patrick Troadec, qui, comme son nom l'indique, nous arrive de Brest. Bonjour, monsieur l'abbé.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Et qui nous parlera eh bien, du mois prochain, c'est-à-dire le mois de mai, c'est-à-dire le mois de Marie, auquel il consacre un très joli livre. Puis je recevrai Gabrielle Holmer, qui, elle, nous dira pourquoi elle fait le pèlerinage de Chartres à Paris, qui aura lieu à la Pentecôte bientôt. Et puis à 15h, je recevrai et le père et le fils, c'est-à-dire Bernard et Louis-Marie Gélineau, l'abbé Gélineau prêtre, Bernard Gélineau, son père, lui a donné le goût de la musique. Et évidemment, ils nous parleront d'un camp d'été qu'ils organisent, Vox Cantorum, à Couloutre. Alors, monsieur l'abbé, effectivement, je le disais, nous sommes à la fin du mois d'avril, et le mois prochain, c'est le mois de mai, et traditionnellement, c'est le mois consacré à Marie. On n'en parle plus beaucoup, malheureusement, du mois de Marie.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Bon, les gens, peut-être qu'ils en parlent un tout petit peu, mais ce n'est pas vécu comme ça l'était autrefois. Moi, je vois, par exemple, du fin fond de ma Bretagne, donc... Ma mère me rappelait qu'encore il n'y a pas longtemps qu'au Folgoat, il y avait le sanctuaire Notre-Dame du Folgoat qui se trouve à 20 km de Brest. Il y avait des milliers de fidèles qui venaient pour les cinq dimanches, comme on disait, le Pemsul en breton, cinq dimanches pour vénérer plus particulièrement la Très Sainte Vierge Marie. Et donc, il y avait, on fleurissait bien sûr tous les autels, et puis à la Vierge, on faisait en sorte que dans sa famille, on ait une statue qui la représente et qui soit aussi vénérée de toute la famille. Et donc, il y avait vraiment une dévotion profonde, en fait, à la Sainte Vierge durant tout le mois de mai. Quoi.
Un peu comme à Noël, dans les familles chrétiennes, il y a la crèche, voilà. Mais au mois de mai, on honorait une statue ou un tableau de la Absolument. Sainte Vierge, et on priait, on récitait le chapelet en famille.
Voilà. Voilà. Et puis après, il y a ce fameux cantique qui dit eh bien, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau.
Oui.
Donc ça, en même temps, c'est vrai que ça correspond avec toute la végétation qui reprend, avec toutes ces fleurs aussi qui apparaissent. Hein, et donc, c'est propre à honorer notre mère du ciel.
Donc, votre ouvrage, dont je vais donner tout de suite les références aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui paraît, comme toujours, parce que vous êtes fidèle à votre éditeur via Romana, c'est-à-dire à M. Mancheron, s'intitule « Le mois de Marie au jour le jour », c'est une collection. Donc, au fond, si je vous suis bien, vous voudriez réhabiliter le mois de Marie comme printemps spirituel, c'est ça ?
Mais c'est exactement ça, tout à fait, exactement. Je voudrais faire en sorte que les fidèles puissent... Eh bien, en plus des dévotions qu'ils ont habituelles de leur journée, qu'ils puissent vraiment accorder une place particulière à la Très Sainte Vierge Marie durant ce mois.
Alors, quand on dit sur le titre, c'est « Au jour le jour », ça n'est pas une publicité mensongère. Effectivement, vous accompagnez votre lecteur au jour le jour. Vous pouvez expliquer, c'est d'ailleurs la caractéristique de tous vos livrets.
Oui, c'est vrai que j'avais commencé à faire des livrets liturgiques au jour le jour. Donc, on a commencé par le temporal. Donc, il y a six livrets qui couvrent toute l'année liturgique, et puis ensuite, il y en a eu quatre qui concernaient les quatre saisons aussi, on peut dire, donc le livret donc, qui porte sur le sanctoral, et puis là, j'ai commencé maintenant à faire une nouvelle série, je ne sais pas si elle sera complète ou non, mais sur les mois, et le principe est toujours le même, c'est-à-dire que c'est deux pages par jour, vous avez une citation de la Sainte Écriture, c'est « Dieu nous parle », ensuite une petite méditation, qui est là pour expliciter la citation de la Sainte Écriture. Et puis après, vous avez une ou deux prières, deux pensées et quelques résolutions. Et donc tout ça tient sur deux pages d'un format de poche. Ouais.
Et alors, c'est peut-être un peu une ingratitude de la part des catholiques français, parce que la Sainte Vierge est honorée, vous le disiez, dans votre pays en Bretagne, mais dans toute la France, parce qu'elle est apparue très souvent. Enfin, alors, bien sûr, on connaît la Salette, on connaît Lourdes, mais il y a quantité d'autres apparitions de la Sainte Vierge.
Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans ce petit livret, je ne pouvais pas faire mention de tous les lieux où elle est apparue, et où elle est vénérée aussi de manière toute particulière, mais j'ai voulu aussi accorder une place à Notre-Dame du Puy, parce qu'il faut savoir que une femme qui était d'une maladie incurable au 5e siècle, a vénéré particulièrement la Sainte Vierge, qui lui est apparue et qui a demandé que, eh bien, elle voulait qu'en ce lieu, et donc il s'agit de Puy-en-Velay, qu'elle soit honorée. Et puis en fait, au Moyen-Âge, on s'aperçoit que vous avez donc 6 papes et même une quinzaine de rois qui sont venus en fait vénérer Notre-Dame du Puy.
Donc, il serait temps qu'on retrouve cette piété filiale, puisqu'elle a spécialement visité la France. Le ciel visite la terre, mais la Sainte Vierge visite la France.
Oh, voilà, il y a un adage d'ailleurs qui le dit, hein, « Regnum Galliae, Regnum Mariae hein, ». Donc, le royaume de la Gaule, c'est le royaume de Marie.
Donc, quand on aime son pays, on aime la Sainte Vierge.
Absolument, absolument. C'est vrai qu'en tout cas, oui, c'est tout à fait juste.
Alors, je vois dans votre livret quand même... Une petite excursion, vous parlez de Notre-Dame d'Afrique, pourquoi ?
Ah ben là, en fait, c'est plutôt lié aux circonstances actuelles. Je pense que si j'avais écrit ce petit livret il y a 50 ans, je n'aurais pas parlé de Notre-Dame d'Afrique. Hein. Mais aujourd'hui, en voyant le développement de... Enfin, comment la France aujourd'hui eh bien, est de plus en plus teintée par le nombre d'Africains qui sont présents, je trouve que c'est bien de montrer eh bien, aux Africains qui sont dans notre pays que la Sainte Vierge était très vénérée dans les premiers siècles, eh bien, en Afrique en particulier. Quoi, donc.
Mais vous savez qu'ils ont une grande dévotion. Si vous vous rendez rue du Bac, vous voyez beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Africains qui prient la Sainte Vierge, puisqu'elle est apparue, comme vous le rappeliez, au Puy, Lourdes, la Salette, tout le monde connaît, mais elle est apparue à Catherine Labouré, à rue du Bac, et les Parisiens ont une grande dévotion.
Ouais, oui.
Mais là, on voit beaucoup, beaucoup d'Antillais et d'Africains qui viennent la vénérer.
C'est vrai, tout à fait.
Ouais. Donc, c'est un livre utile. Alors, dites-nous, rentrons un peu dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous avez conçu votre ouvrage? Qu'est-ce que vous proposez comme... mais disons, on sait donc qu'il y a certaines apparitions, mais c'est toute la vie, au fond, de la Sainte Vierge que vous voulez que l'on médite.
Voilà. C'est vrai que j'avais déjà écrit dans certains livrets qui portait déjà un petit peu sur le thème de la Sainte Vierge, mais c'est le livret sur le rosaire. Un autre livret, c'est le rosaire avec Mgr Lefebvre, donc en prenant des paroles de Mgr Lefebvre sur le thème du rosaire. Il y en a eu un sur Notre-Dame de Compassion. Donc dans ces livrets-là, je voyais plutôt certains aspects précis en fait, de la vie de la Sainte Vierge. Ici, c'est une vue un petit peu plus générale qui embrasse toute la vie de la Sainte Vierge pour comprendre justement ce qu'est la dévotion à la Sainte Vierge. Quoi.
Et là... Quel est le plus difficile? C'est de trouver les textes ou de réduire parce que comme vous vous imposez un format pratique, c'est-à-dire qu'il faut que chaque jour, on ne dépasse pas 2 pages. Qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez, puis après vous êtes obligé, avec une paire de ciseaux, de couper? Comment ça se passe?
En général, en effet, c'est vrai que tout dépend des thèmes, bien sûr, qu'on aborde. Hein. Il y a des thèmes quand c'est des thèmes qui sont très précis, là, il faut essayer de trouver les 2 pages. Mais quand c'est des thèmes qui sont très larges, ben là, il faut essayer de synthétiser, donc aller à l'essentiel. Quoi. Par exemple, là, on aborde l'Immaculée Conception, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a eu des colloques entiers qui ont duré des heures sur ce thème-là.
Et là, c'est lourd, alors, pour le coup.
Absolument. Absolument.
Mais alors, justement, puisque vous avez le livre en main, donnez un échantillon aux auditeurs de Radio Courtoisie.
J'ai essayé de voir, donc, comme je vous l'ai dit, la Sainte Vierge sous différents aspects, donc à la fois différents aspects de sa vie, de l'Immaculée Conception jusqu'à sa montée au ciel, et son couronnement au ciel, mais ensuite après j'essaie de voir aussi certaines de ses vertus, et en particulier, si je prends par exemple à la page 20, le thème c'est « La Vierge toute pure ». Donc je peux vous lire un extrait pour vous montrer un petit peu le...
Et au fond là, les auditeurs, vous retrouvez un peu les litanies de la Sainte Vierge, parce qu'on l'honore
oui,
comme
oui,
ça,
oui, oui.
Vierge très pure, Vierge très sainte,
oui,
exactement.
Tout à fait,
d'accord.
Tout à fait.
Alors, parlons de la Vierge très pure, page 20.
Alors, donc, la citation, donc, Dieu nous parle, c'est « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et la méditation, « Découvrons dans le silence de la contemplation le visage de la Sainte Vierge. Fixons notre regard sur Marie, sur les richesses de sa virginité, selon la belle expression de saint Ambroise. Que de splendeur! Qui dit pureté dit absence de mélange, de partage, dit simplicité, dit don total à Dieu. Marie est toute pure. Elle est pure dans son corps, elle est pure dans son cœur. Elle n'a jamais connu l'ombre du péché. Immaculée dès l'origine, elle est vierge avant, pendant et après l'enfantement de son divin Fils. Elle est la Vierge par excellence. Son cœur, toujours rempli de grâce, gratia plena, n'a été possédé que de Dieu, n'a aimé que Dieu dans une limpidité sans ombre. C'est ce qui lui a valu d'accueillir le Verbe divin en elle, selon ce que nous chantons dans le Credo. Il s'est fait chair de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Peut-être ne voyons-nous que cette chasteté sans nous rendre compte que la pureté de Marie va plus loin encore. Il y a la virginité du corps, la virginité du cœur, mais il y a aussi la virginité de l'esprit, la pureté de l'esprit, et c'est un grand don de Dieu. Marie a eu cette lumière claire. Elle a eu la pureté parfaite de son intelligence. Elle a eu une foi limpide, toute simple, sans ombre. Elle a accepté les vérités de la foi sans se poser 1000 questions inutiles. C'est pourquoi l'Église, dans la Sainte Liturgie, nous fait répéter après Élisabeth « Vous êtes bienheureuse, Marie, parce que vous avez cru. »
On va laisser aux auditeurs le soin de découvrir par eux-mêmes donc la page 21.
Absolument.
Alors, on se dit, bien sûr, c'est sublime, mais ça peut rester peut-être un petit peu à une hauteur stratosphérique. Comment est-ce que ça s'incarne? Et là, justement, à la page suivante, vous donnez les moyens de faire en sorte que ça se transforme en résolution pratique, personnelle, c'est-à-dire qu'au fond, on assimile, on s'approprie, au fond, cette belle page que vous venez de lire.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous proposez, alors, justement, pour ça?
Là, déjà, au niveau de la pensée, vous avez la première pensée, c'est une pensée du curé d'Ars qui dit « Une âme pure ressemble à un lys, à un beau lac dont l'eau claire et limpide laisse voir tout ce qu'il y a au fond. » Et puis la deuxième citation est du père Calmel. « Miroir sans tache, la Vierge réfléchit avec une limpidité sans défaut, les splendeurs de la Trinité parce qu'elle les contemple et sa contemplation est tout à fait pure. » Alors ensuite, les résolutions qui sont un peu décapantes, je dirais, bon, pour la première. Méditer pendant 10 minutes sur le feu de l'enfer créé pour punir l'impureté. Deuxième résolution possible, invoquer la Sainte Vierge pour surmonter les tentations contre la pureté, voir à la page 82 une prière à Marie pour cela. Et puis troisième résolution, réparer par un sacrifice chaque faute d'impureté, éclairer sa conscience pour débusquer ses moindres faiblesses et l'acheter.
Là, effectivement, on est dans le concret.
Absolument.
C'est pratique. C'est très important parce qu'encore une fois, on peut se dire ce sont des textes très très beaux, mais ça peut rester extrêmement abstrait. Et là, on se dit, voilà comment je peux, moi, mettre ça en pratique. Et vivre, au fond, pas simplement lire, mais vivre.
C'est tout à fait ça.
Ce texte-là. Ouais. Alors, vous-même, vous avez été directeur de séminaire, vous êtes prieur, on peut presque dire recteur en Bretagne. C'est cette expérience sacerdotale qui vous a permis de comprendre comment on arrivait à aider efficacement les âmes. Enfin,
c'est sûr que là, quand on est vraiment plongé dans le monde avec nos fidèles, on s'aperçoit des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, il est important de pouvoir les aider, les guider, pour les aider à progresser, quoi. Puisqu'on parlait du sujet de la pureté, c'est sûr qu'on vit malheureusement dans un monde qui est plongé dans l'impureté. Et donc, c'est très important d'avoir, d'abord, de pouvoir apprécier la beauté, parce que plus on sera attiré, je dirais, vers le beau, le vrai, le bien, plus on se détournera du mal. Mais ensuite, après, pour éviter les tentations, il faut avoir vraiment des résolutions qui soient vraiment très concrètes et très, très fermes pour pouvoir choisir son camp, quoi. La Sainte Vierge, on la représente avec le serpent à ses pieds. Comme je dis, au niveau de la dévotion mariale, on ne peut pas en fait être entre les deux. Si on aime la Sainte Vierge, on doit aussi, comme elle, détester Satan et donc tout ce qui peut nous conduire vers le mal.
Et alors, vous avez consacré un livre à la Sainte Vierge. J'ai anticipé, mais je sais déjà la réponse, puisque vous y avez déjà répondu, en acte. Après le mois de mai, c'est le mois du Sacré-Cœur en juin. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui veulent eux aussi progresser dans la dévotion au Sacré-Cœur?
Eh bien, ils peuvent acheter le petit livret qui est sorti l'an dernier sur le mois du Sacré-Cœur.
C'est bien. Donc voilà, au fond, il y aura un mois. Mais est-ce qu'il y a vraiment sur les 12 mois, 12 dévotions ou il y a des mois qui feront...
Alors, il y a des mois qui sont moins... où la dévotion est moins, je dirais, moins affirmée ou... Mais on peut trouver des thèmes. Hein. Par exemple, le mois de janvier, par exemple, sur la Sainte Enfance, vous voyez, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas forcément... c'est pas une dévotion qui est aussi répandue que celle à Saint-Joseph ou au Précieux Sang ou au Sacré-Cœur, mais on peut très bien développer. Ou par exemple, le mois de septembre, c'est aussi le mois des anges, on peut voir à travers avec la fête de Saint-Michel. Voilà.
Vous parliez du Preciosone, donc ça c'est le mois de juillet, oui. Et vous avez un livre...
Alors normalement, dans le prochain là, que je prépare, et donc c'est le mois de Saint-Joseph qui doit paraître.
Donc vous zigzaguez dans le calendrier, vous avez fait le mois de mai et vous remontez en mars.
Voilà, en fait j'ai commencé par le Sacré-Cœur, mais là c'était un autre motif, c'est-à-dire que l'année dernière c'était le 350e anniversaire de la grande apparition du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et donc du coup je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose sur le Sacré-Cœur. Mmh. Et puis après, bon, honorant notre Seigneur, j'ai dit, ben, il faut honorer sa mère, voilà. C'est pour ça, après, honorant la mère, bah, je dois aussi pas oublier Saint-Joseph. Hein. Donc, voilà. C'est comme ça que c'est plutôt dans cet ordre-là que j'ai...
Tout se tient. Ouais. Et alors, le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Là, vous avez déjà fait plusieurs choses sur le chapelet, sur le rosaire.
Oui, alors ça, on verra. Ce ne sera pas tout de suite. Ouais. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose après sur le mois du rosaire.
Est-ce que vous pensez, parce que dans les dévotions, il y a le mois de novembre, le mois des âmes du purgatoire.
Absolument. Ah oui, là, j'ai bien l'intention de faire quelque chose aussi, ça. Si je peux, enfin, si le bon Dieu me prête de vie, et si, voilà.
Parce qu'il y a dans la fraternité de notre confrère Alain Lagneau qui a...
Une confrérie, voilà.
Une confrérie, justement, pour la délivrance des âmes et le soulagement des âmes du purgatoire. Et qui est très... Là aussi, c'était une dévotion autrefois très populaire. C'est un petit peu tombé en désuétude. Heureusement qu'il y a encore ce sanctuaire où on va d'ailleurs chaque année pour prier pour les âmes à Montlivet.
Le curé d'Ars d'ailleurs le disait aussi, hein, qu'il disait que la dévotion pour la... Donc il y avait les confréries aussi pour les pêcheurs, mais ensuite après il disait que la dévotion au purgatoire était l'une des plus grandes dévotions d'église et qui était importante pour honorer Dieu.
Donc, il y aura un mois de novembre, et vous parlerez à ce moment-là de Notre-Dame de Montlijon.
Exactement, n'oublierez pas Notre-Dame de Montlijon.
Alors, donc on voit déjà vos projets, mais on ne peut pas dire que vous soyez inoccupé. Enfin, vous avez,
Bah après, c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, je ne suis pas sûr de pouvoir faire tout cela, mais ce sont des projets, quoi. Voilà.
Et justement, ce qui doit vous encourager, non seulement c'est que vous avez cette expérience sacerdotale, vous êtes prêtre depuis combien d'années ?
Alors, je vais fêter mes 38 ans de sacerdoce, au mois de septembre cette année.
Donc, 38 ans d'expérience sacerdotale, de ministère, de dévouement, ça donne bien sûr le sens des âmes. Et est-ce que vous avez justement des retours à travers justement ces... Je pense d'ailleurs que si vous les faites avec tant de régularité, c'est que vous voyez le bien que ça peut produire.
Disons que les deux moteurs que j'ai, ce qui m'incite, disons, à continuer... C'est à la fois l'éditeur qui me dit « Alors maintenant, vous allez faire quoi ?» et qui me suggère parfois des titres aussi. Et puis également les retours par des fidèles, en effet, ou même des confrères aussi, des confrères prêtres. Parce que même plusieurs des livrets sont traduits maintenant en anglais, donc ils sont aussi vendus aux États-Unis. Et j'ai eu des retours, en fait, donc de lecteurs. Et c'est vrai que ça m'encourage beaucoup. Aussi bien, comme je vous dis, de laïcs, de jeunes convertis, ou même de religieux aussi, ou de religieuses. Donc.
Est-ce que vous voyez en Bretagne ce qu'on voit un peu par toute la France, c'est que pas mal de jeunes qui découvrent la foi, qui n'ont rien reçu,
oui, tout à fait.
Pas de baptême, pas de catéchisme, rien, tout et qui découvrent ça, et vous
ah
le
oui,
sentez.
Oui, bah oui, bah je vois d'ailleurs, mes livrets sont très vendus dans les trois maisons de la Fraternité Saint-Pilice, où on prêche des retraites en France, que ce soit donc au Pointé, à Caussade ou à Gâtine. Et donc là, parmi ceux qui achètent les livrets, il y a bien sûr nos fidèles, mais ceux-là, ils ont en général les livrets déjà dans les prieurés. Mais ceux qui découvrent la foi et qui veulent ensuite aller plus loin, d'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs de faire des retraites s'ils n'en ont pas fait, et bien, au cours des retraites, à la fin, il arrive le moment après d'essayer de persévérer, et donc là, mes petits livrets peuvent être un soutien pour eux, quoi. Voilà.
Et vous-même, personnellement, vous avez vu s'il y avait une dévotion qui pouvait toucher... Bien sûr, chaque âme est un mystère, chaque âme est un grand diocèse, comme disait Saint-François de Sales. Est-ce que vous voyez s'il y a des dévotions qui sont plus parlantes, si j'ose dire, aux âmes d'aujourd'hui? Est-ce que c'est l'amour miséricordieux? Est-ce que c'est...
Disons que... Vous verrez bien, d'ailleurs, ceux qui liront le livret, c'est que la Sainte Vierge nous met dans la confiance et dans l'abandon à la Providence et dans la paix, quoi. Et donc ça, c'est vrai que ce sont des dévotions qui touchent les âmes, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est très, très perturbé, avec beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, et donc les âmes ont besoin d'être pacifiées, quoi. Et donc c'est vrai qu'une dévotion, une vraie dévotion mariale, eh bien, ça fortifie et ça pacifie.
Vous dites que ça, c'est une présence maternelle, donc c'est une présence rassurante. Vous dites comme pour un enfant. Un enfant, s'il a sa maman à côté de lui,
c'est exactement ça.
Est rassuré, c'est ça.
C'est exactement ça, oui. Tout à fait. Un petit enfant, donc il a, quand sa maman est là, il se dit « Ah, maman est là, donc tout va bien, quoi. » Donc là, c'est un petit peu pareil. Et ce n'est pas une vue d'esprit, en plus. C'est ça qu'il faut bien comprendre, en fait. Hein. C'est que dans le plan de Dieu, en fait, le bon Dieu a créé d'abord un homme et une femme, Adam et Ève. Tous les deux, hélas, sont tombés dans le péché. Et donc, le bon Dieu a voulu ensuite que venir nous sauver, donc Jésus-Christ, qui est l'homme-Dieu, mais il a voulu aussi qu'il y ait une femme aussi qui soit là. Et donc, on a vraiment besoin des deux. Donc, et en plus, comme Jésus-Christ, ben, tout en étant... il est le Fils de Dieu, donc il a, en raison de sa divinité, il pourrait nous faire un peu peur, je dirais. La Sainte Vierge, elle, est purement humaine. Elle n'est pas une déesse. Mais en même temps, elle est précisément une très bonne intermédiaire parce que elle est, comme elle est la mère de Jésus, ben, nécessairement, son Fils ne peut que l'écouter. Et puisqu'elle est en même temps aussi notre mère, ben, elle peut aussi que nous écouter. Donc, du coup, c'est toute la dévotion bien expliquée par un évêque breton, Saint-Louis-Marie de Montfort. Il explique très bien que la Sainte Vierge, elle est médiatrice auprès du médiateur. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Mais pour aller à Jésus-Christ, on a besoin encore d'un tremplin, et c'est la Sainte Vierge qui va nous aider. Donc, le bon Dieu est Père, mais on a aussi besoin d'une mère. Pour avoir une éducation équilibrée au niveau naturel, on a besoin d'un papa et d'une maman. On le voit bien aujourd'hui, malheureusement. Quand ce n'est pas le cas, il y a souvent des déséquilibres. Je l'ai vu même au séminaire, par exemple, mais aussi dans le monde, enfin voilà. Mais donc, au niveau surnaturel, c'est pareil. Donc, le bon Dieu a très bien fait les choses. On a Dieu qui est Dieu notre Père. Et on a aussi en même temps une mère. Et donc c'est Rome, Seigneur.
Et vous voyez, justement, vous êtes des jeunes qui sortent de familles un peu cabossées, il faut avouer, décomposées, recomposées, oui. Redécomposées et recomposées. Là, ils trouvent une stabilité.
Exactement. Exactement. Ouais.
Dans la Sainte Famille, alors.
Bah, tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait.
Alors, vous, ça n'est pas un ouvrage polémique que le vôtre, mais là, vous venez quand même de prendre parti. Il y a un document qui remet en cause la co-rédemption, la médiation de la Sainte Vierge, et vous vous affirmez de façon tout à fait sereine, mais c'est évident qu'elle est co-rédemptrice.
Mais exactement. Pour moi, c'est vraiment le terme évidence, c'est-à-dire que c'est le fruit de réflexion et de... sans doute de méditation, mais quand on approfondit un petit peu le rôle de la Sainte Vierge, on ne peut pas ne pas conclure qu'elle est co-rédemptrice. Alors, quand on dit qu'elle est co-rédemptrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas dire pour autant qu'elle est au même niveau que Jésus-Christ. On est d'accord, Jésus-Christ est le seul sauveur, je l'ai dit tout à l'heure. Mais, en dépendance de Jésus-Christ, sous sa dépendance, eh bien, elle a joué un rôle réel. On voit bien, par exemple, c'est très beau ça, quand on médite, par exemple, les sept paroles du Christ en croix. La première parole du Christ en croix, c'est « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Deuxième parole, c'est le larron, il a entendu cette parole, donc il dit « Oh, il est allé jusqu'à pardonner à ses bourreaux, peut-être qu'il va me pardonner. » Il lui dit « Est-ce qu'il y aurait aussi une place dans mon royaume, dans votre royaume ? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais certainement que la Sainte Vierge a dû répéter en même temps que le larron, et que notre Seigneur, « Père, pardonnez-leur, parce qu'il n'y a pas ce qu'ils font. » Et donc, elle a travaillé au changement du cœur du larron, qui est devenu le bon larron, par la prière de la Sainte Vierge. Et donc, en voyant comment est-ce que les deux cœurs étaient si unis, celui de Jésus et de Marie, la troisième parole s'adresse précisément à la Sainte Vierge. Jésus lui dit, en lui montrant Saint Jean, « Femme, voilà votre fils. » Et il dit à Saint Jean, « Voilà votre mère. » Donc, Bossuet commente en disant, « Vous qui souffrez avec moi, soyez féconde avec moi, soyez avec moi la mère de ceux que j'engendre par mes souffrances et par mon amour. » Donc là, on voit très bien, si vous voulez, eh bien, que c'est les souffrances conjointes du Fils et de la Mère qui ont sauvé l'humanité. Donc on peut pas... bien sûr que Jésus-Christ aurait pu très bien le faire tout seul, mais il a voulu qu'il y ait une femme, parce qu'il y avait une femme qui était là aussi au moment du péché. Il a voulu qu'elle collabore aussi, à sa manière, sous sa dépendance.
Et à travers cette phrase adressée à Saint Jean, « Voici votre mère », c'est nous tous.
Absolument, absolument.
Elle est notre mère à tous.
Absolument. Nous sommes devenus vraiment enfants de Marie en ce moment-là. Et on va dire, j'ai fait un baptême. Et donc, quand on fait un baptême, eh bien, on rentre dans l'église. La première prière qu'on dit, c'est le Je crois en Dieu, parce que le Je crois en Dieu résume, en fait, hein, les 12 articles de la foi catholique. Et après, on récite le Notre Père. Alors, j'expliquais aux parrains, marraines qui étaient là, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait des gens bien formés. Du coup, j'ai dit, ben, en fait, si on dit le Notre Père, c'est parce que l'enfant va devenir enfant de Marie, bien sûr, mais aussi enfant de Dieu. Et donc, la prière du catholique, c'est, eh bien, Jésus nous a dit, Notre Père qui es aux cieux. Donc, il devient enfant de Dieu et en même temps aussi eh bien, enfant de Marie. Donc, du coup, l'enfant a été consacré à la Sainte Vierge, comme on le fait souvent au moment du baptême.
Alors, il faut que je dise aux auditeurs tout de suite de quoi nous parlons, parce qu'ils vont me le reprocher sinon. L'abbé Patrick Troidec, qui vient de faire paraître Le Mois de Marie au jour le jour aux éditions Via Romana, une petite centaine de pages, pour 10 euros seulement, et toujours un format de poche qui rentre dans un sac à main. On doit pouvoir l'emporter dans le métro, on peut le lire dans le train.
Mais tout à fait.
C'est pratique même dans la présentation matérielle. Quoi. C'est pas un gros volume de 300 pages. D'un demi-kilo, non ?
Absolument, non.
C'est fait pour, vous avez...
Mais tout à fait, c'est parce que le premier livret a été fait selon ce mode, et qui ensuite a plu, et donc c'est pour ça que l'éditeur lui-même avait été conseillé, en fait, quant au format, et donc il a suivi ce format, et après, on a continué sur cette série, quoi.
Et je crois d'ailleurs que beaucoup d'autres auteurs spirituels reprennent ce format, beaucoup d'écrivains, beaucoup de prêtres. Je vois que ce format vous avez lancé là, à mon avis, un format qui est copié, mais jamais égalé, évidemment. Et où est-ce qu'on le trouve ? Vous disiez, bien sûr, on peut aller dans les maisons où on prêche les retraites, Caussade, Le Poitté, Gâtine, ça, mais...
Plupart même des prieurés, je pense que bien vous sûr. Le trouvez. Hein. Mais après, si certains souhaiteraient avoir une dédicace, hein, ils peuvent aussi m'écrire au prieuré Saint-Yves, 26 rue des Citelles, 2T2L, 29-490, Guy Pavard.
Alors, Guy Pavard, c'est l'aéroport de Brest, d'ailleurs.
Absolument,
Brest. Juste à côté. Alors, vous allez nous redonner cela, peut-être en donnant bien l'orthographe, Citelles, S-I-2-T.
Prieuré Saint-Yves, 26 rue des Citelles, S-I-2-T-E-2-L-E-S, 29-490, Guy Pavard, G-U-I-P-A-V-A-S.
Moi, j'ai une question à vous poser, au breton que vous êtes. Vous parlez de la Sainte Vierge, c'est très bien, mais les bretons...
Il y a Sainte-Anne.
Évidemment, la mère. Alors, qu'est-ce que vous faites pour Sainte-Anne ?
Ben, bien sûr que je l'invoque. Hein. Je l'invoque.
Mais un livre, il faut que vous nous fassiez quelque chose. Quand on sait quand même qu'il y a ces grands pardons, ces grands...
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être un jour.
Alors, je sais bien que vous pensez que Sainte-Anne est bretonne et qu'elle elle a appris à lire en breton à Sainte-Vierge, comme toutes les statues le montrent, mais ça, c'est pas tout à fait certain. Il n'empêche qu'elle appartient à toute l'Église et tout le monde aimerait bien, même au-delà de Rennes, avoir un livre sur...
Peut-être, alors.
Rennes, c'est la frontière. Hein, c'est la frontière. Au-delà de Rennes, on entre en France. C'est ça, on quitte le duché. Non, c'est peut-être. Alors, je ne suis pas votre éditeur, mais c'est peut-être une suggestion.
À voir.
Bon, alors, un grand merci. Je redonne donc les références. Abbé Patrick Troidec, Le Mois de Marie au jour le jour, Via Romana, une petite centaine de pages, 10 euros, dans toutes les bonnes librairies, même d'ailleurs on peut trouver à Paris, au comptoir des monastères, à la procure,
oui.
C'est largement diffusé, c'est très, très bien. Un grand merci. Et...
Merci à vous de m'avoir accueilli encore aujourd'hui.
Voilà.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Et à vous.
Kenavo, bien sûr, c'est ça. Quand un breton voit un autre breton, c'est comme ça qu'il s'adresse. Benoît va nous envoyer un message.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Alors, oui, on veut se sentir mieux, comme le dit ce message, et donc il faut absolument que nous soutenions, que nous aidions la radio, que ne soyons pas comme dit Jean Ferré, d'ailleurs, des auditeurs clandestins. Non. Aidez vraiment Radio Courtoisie, qui a bien besoin de vous. Et j'ai la joie de recevoir maintenant Gabrielle Holmer, qui est étudiante et qui fait le pèlerinage de Chartres à Paris, c'est-à-dire le pèlerinage qui va avoir lieu à la Pentecôte, le samedi, veille de la Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, le lundi de Pentecôte. Et avant même de lui poser cette première question, je vais lui demander depuis combien de temps faites-vous ce pèlerinage ? Les auditeurs n'ont pas l'image, mais je peux dire tout de suite que vous n'êtes pas détenteur de la carte vermeille, que vous n'avez pas la carte avantage senior. Vous êtes plutôt en dessous, bien en dessous des 30 ans.
Cette année sera ma 15e édition du pèlerinage de Chartres. Donc c'est la 15e fois que je fais ce trajet, que j'ai fait sous plusieurs formes. Je l'ai fait pendant 14 ans en uniforme, d'abord en tant que guide, ensuite en tant que cheftaine de Louvette, puis en tant que cheftaine de guide, et cette année pour la première fois en Pékin.
Donc, voilà. Donc vous êtes très jeune et en même temps vous êtes une vieille pèlerine.
Et en même temps, je commence à avoir vu quelques éditions, oui.
Alors, d'où la question qui donne d'ailleurs le sujet de notre conversation. Pourquoi faites-vous avec autant de persévérance ce pèlerinage ?
Alors, cette persévérance est assez étonnante parce que j'ai un souvenir très intense de chaque lundi après-midi me dire « c'est la dernière fois ». C'est la dernière fois, j'ai trop mal, j'en peux plus. Et en fait, chaque année, quand les inscriptions ouvrent, on s'inscrit de nouveau. Alors, les premières fois, je l'ai fait parce que j'étais obligée. Enfin, ça faisait partie des activités du groupe scout. Donc, je m'y suis inscrite parce qu'on me demandait de m'y inscrire. J'y connaissais absolument rien parce que j'avais des amies qui, pour le coup, elles le faisaient depuis qu'elles avaient 6 ans, soit l'âge légal pour s'y inscrire. Moi, j'ai commencé plus tard, donc j'y connaissais rien et pas de préparation physique, rien du tout. Le premier n'a pas été évident, mais en fait, il y a une ferveur qui est telle qu'on a envie d'y retourner, on a envie de retrouver cette ferveur collective. En tant que catholique, on a bien souvent l'impression d'être seul, d'être un peu isolé dans un monde où tout va un peu à l'encontre des valeurs qu'on nous inculque, des valeurs auxquelles on croit, etc. Et en fait, ce pèlerinage, c'est un peu un petit moment hors du temps où on se retrouve que entre personnes qui veulent la même chose, à savoir le salut de leurs âmes, quitte à s'épuiser les pieds sur des routes poussiéreuses. Et donc, il y a l'accompagnement des prêtres qui facilite cette ferveur collective. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus naturel, des bonnes amies qu'on fréquente, des bons amis, on y retrouve de la famille, des gens qui habitent loin de là où on habite, mais on se retrouve tous sur les mêmes routes, sur les mêmes bivouacs, donc on croise que des têtes qu'on connaît, et ça fait toujours, c'est un rendez-vous qui fait plaisir, quoi.
Ouais. Alors, avant d'aborder cette ferveur dont vous parlez avec enthousiasme, rassurez-nous, vous disiez-vous que vous aviez commencé sans entraînement, je le dis d'ailleurs tout de suite aux auditeurs qui ne vous voient pas, vous n'avez pas un physique de marathonienne, il faut quand même faire quelques exercices avant ou on peut y aller comme ça ?
Tout dépend de la condition physique et des données de base de chacun. Maintenant, s'il y a un vrai conseil de préparation, c'est surtout d'avoir des chaussures qui ne sont pas neuves et qui sont adaptées à la marche parce que ça reste un exercice sportif. Il y a 109 km entre le point de départ et le point d'arrivée en 3 jours avec un rythme qui n'est pas adapté à chacun puisque le ton est donné, quoi. Donc il faut suivre. Maintenant, ça se fait. C'est comme vous le disiez, c'est pas réservé aux marathoniens, aux ultra-sportifs ou aux professionnels, quoi. C'est faisable, mais il faut anticiper, quoi.
Mais quand vous dites à la fin, lorsque vous êtes place Vauban, donc vous dites je le ferai plus. C'est que vous avez quoi ? Beaucoup d'ampoules, plein de crampes. Qu'est-ce qui vous fait dire c'est fini ? Et puis évidemment le lendemain, vous avez changé d'avis et vous vous inscrivez pour le pèlerinage 2027. Mais le soir même, quand on arrive, il faut s'attendre à quoi ? On a quelques crampes. On a quoi ?
Quelques crampes. Des courbatures absolument partout parce qu'au-delà de la marche, on bivouac. Donc, les nuits sont pas, ne permettent pas vraiment au corps de récupérer autant qu'on le souhaiterait. Donc, des courbatures qui s'installent pour peu que comme moi, on n'ait pas pris les bonnes chaussures pendant 10 années de suite, et ben on se retrouve avec un tapis d'ampoule sur la plante des pieds. En fait, on a mal partout, on est fatigué, et on veut que rentrer chez soi, prendre une bonne douche et ne plus jamais y retourner, mais on y retourne, quoi.
C'est ça. Donc, effectivement, ces difficultés physiques sont balayées, effacées par de tout ce qui s'est passé sur le plan spirituel et amical aussi. Mais...
Et je pense que le point de vue spirituel aide beaucoup ces souffrances parce que on ne souffre pas en vain. C'est pas pour une performance sportive. C'est des souffrances qu'on offre tout au long du pèlerinage par les méditations qui sont proposées, les prêches des abbés, etc. On est exhorté à offrir toutes ces souffrances-là. Donc, on arrive, on a mal. Et d'ailleurs, la clôture ne se fait pas sur un classement des participants, mais bien sur une messe. Donc, quand vous n'en pouvez plus, vous arrivez au pied de l'autel et ça se termine par une messe. Donc, ce qui donne un peu un sens à cette souffrance qui n'est pas négligeable.
Mais au fond, vous retrouvez un peu ce que Saint Paul dit. Y a des sportifs déjà de son temps, mais eux, ils courent pour une couronne périssable et nous courons pour une couronne impérissable. Eux, ils s'imposent des sacrifices. Nous aussi, nous pouvons nous imposer
Exactement.
Des sacrifices. Mais c'est spirituel, c'est ça.
Et eux le font pour pas rien, hein, mais pour quelque chose qui passera. Donc nous, on peut le faire pour quelque chose qui ne passera pas.
Voilà, donc c'est ça. Il y a là effectivement des visées d'éternité. C'est pas des récompenses biodégradables.
Je me rappelle d'une louvette, donc une petite fille de... Allez quoi, elle devait avoir 9 ans, qui marchait le pèlerinage, qui n'en pouvait plus le lundi matin. Et quand on arrive à Saint-Cloud, il y a des escaliers. Et descendre des marches d'escalier quand on a... 100 km dans les pattes, ça commence à... Enfin, c'était les enfants, donc c'est moi, mais elle était quand même en souffrance. Et je l'entendais descendre, et à chaque marche, elle disait « J'offre une marche pour une âme. Une marche, une âme. » Et bon, j'ai compris le sens du pélé à ce moment-là.
Et ça, vous parlez des enfants. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent, bien sûr, être fatigués, mais il est vrai aussi qu'ils récupèrent beaucoup plus vite que...
Beaucoup plus vite que nous.
C'est ça.
On voit sur les pauses qui jalonnent la journée des enfants, souvent des petits garçons, qui, alors que nous, on s'étale dans l'herbe pour essayer de récupérer pendant la demi-heure qu'on nous accorde, sortent un ballon et jouent au foot sur la pause. Donc, ils ont une capacité de récupération qui est parfois meilleure que la nôtre.
Alors, pour nos auditeurs qui... trouverait effectivement que c'est peut-être au-dessus de leurs moyens physiques, on peut quand même dire, on n'est pas obligé peut-être de faire tous les 3 jours. Il y a des gens qui peuvent ne faire que la première journée et puis rentrer chez eux, ou même qui peuvent aussi, parce que là on est dans Paris, arriver le dernier jour au Bois de Boulogne, faire la traversée de Paris, une très jolie procession, et puis avoir la messe à Vauban. Et là pour le coup, ça n'a rien de d'extravagant. Enfin, c'est tout à fait faisable.
Absolument. Il y a plusieurs configurations. Il est possible de ne s'inscrire que pour 1 ou 2 journées, etc. Mais il est également possible de s'inscrire pour les 3 jours. Et quand vous n'en pouvez plus, on ne vous traîne pas jusqu'à l'arrivée. Il y a tout un système de navettes qui est très bien rodé, très bien mis en place, qui vous conduit des points de récupération des pèlerins fatigués jusqu'aux prochaines haltes. Si je me souviens bien, il y a même des haltes qui s'appellent pèlerins fatigués qui sont prévus pour ceux qui n'arrivent plus à avancer là où le reste de la colonne continue. Et ensuite, tout le monde se retrouve aux grosses pauses, quoi. Mais c'est tout à fait possible d'adapter le parcours en utilisant les navettes, les haltes pèlerins fatigués, etc.
Alors, j'ai envie de prévoir là le cas de gens qui ne peuvent pas du tout. Parce qu'ils ont 99 ans et ils disent « mais nous, alors c'est interdit ». Et là, je crois que même eux peuvent faire le pèlerinage. Ils ne marchent pas, mais ils sont unis au pèlerinage. Et je crois qu'il y a un chapitre qui... Le chapitre, c'est un groupe de pèlerins. Ils ne se déplacent pas, mais ils accompagnent de leur prière depuis chez eux, peut-être depuis leur fauteuil roulant.
Exactement. Le chapitre des anges gardiens, qui est un chapitre de membres priants, qui en fait accompagnent les pèlerins de leur prière. Et on parlait tout à l'heure du côté spirituel de cette marche. Encore une fois, ce n'est pas un défi sportif. L'important du pèlerinage, c'est son aspect spirituel. Et donc, il n'y a pas de raison que des personnes qui ne soient pas en mesure de marcher ne puissent pas s'unir à cette spiritualité du pèlerinage. Et donc, les membres priants sont là pour accompagner de leurs prières les pèlerins. Et il y a un échange de bons procédés, puisque lorsque vous vous inscrivez en tant que membre pèlerin, vous pouvez renseigner une intention de prière qui sera confiée aux pèlerins qui offriront leurs souffrances physiques aux intentions des membres priants qui, de leur côté, prieront
donc
pour
là,
les
y a,
pèlerins.
Il y a un échange, la communion des saints.
Exactement.
J'offre mes ampoules contre
Exactement.
Une dizaine de chapelets. Merveilleux. Alors, je pense que les auditeurs veulent quand même savoir comment on fait pour s'inscrire ou avoir des renseignements. Je vais tout de suite donner l'adresse du pèlerinage. C'est 20 rue Gerbert, 75 015 Paris. Et le plus simple, c'est effectivement d'aller sur le site du pèlerinage. C'est www.pèlerinage.com. Et là, il y a même une adresse internet. Alors là, c'est pelerinage.trad@orange.fr. Et alors, quand est-ce qu'a lieu la Pentecôte? Eh bien, c'est le 23, 24, 25 mai. Donc, 23 départ de Chartres, 24. Ça sera le jour de la Pentecôte même, et 25, arrivé à Paris, place Vauban. Mais vous parliez des gens qui peuvent s'unir au pèlerinage à distance. C'est formidable d'ailleurs de pouvoir faire un pèlerinage à distance comme ça, spirituellement unis. Mais il y a aussi quand même, c'est encore plus extraordinaire, des personnes infirmes qui font le pèlerinage dans leur petite voiture. Et là, c'est un chapitre spécial. Alors, ça veut dire que, bien sûr, ces personnes ont des accompagnateurs qui vont porter les fauteuils, les aider, les pousser, les tirer, etc. Et ça vous avez vu vous-même, en tant que pèlerine, vieille pèlerine de 15 ans d'expérience?
Oui, parce qu'en réalité, le pèlerinage suit trois itinéraires différents qui se rejoignent, hein, mais... Donc, il y a la colonne adulte qui suit l'itinéraire le plus long. Et ensuite, vous avez la colonne enfant qui a un itinéraire qui est raccourci par des prises en charge par des bus sur des portions. Et ensuite, il y a la colonne ado qui est un peu bâtarde à cheval sur les deux. Et donc, ce chapitre de personnes handicapées marche avec la colonne enfant. Et donc... quand je marchais avec les louvettes, donc nous étions sur l'itinéraire enfant, et derrière nous était ce chapitre qui s'appelle Sainte-Litvine. Donc vous avez en moyenne deux encadrants par personne handicapée. Et donc vous avez des fauteuils roulants qui sont un peu particuliers, avec une seule roue, je ne sais plus bien comment ça s'appelle, mais qui sont un peu, toute proportion gardée, un peu tout terrain. Et puis des personnes qui viennent accompagner, qui tirent les fauteuils, qui accompagnent par exemple les trisomiques, qui s'occupent de toute cette gestion-là. Et c'est d'ailleurs, lorsque vous arrivez sur une halte, vous avez un speaker qui va venir annoncer l'arrivée des chapitres. Et c'est invariablement le chapitre le plus acclamé par les autres pèlerins, encore une fois pour... une expérience personnelle, je me souviens quand j'étais cheftaine, de mes guides qui étaient étalés dans l'herbe parce qu'on avait beaucoup marché, et voyant arriver le chapitre Sainte-Litvine, se lever, courir au devant du chapitre pour aller les applaudir, les encourager à l'arrivée, etc. Donc c'est très très beau, tout le monde a sa place au pèlerinage.
Ça, il faut avouer. Alors, il faut que je vous dise tout de suite, Gabriel, que vous venez de perdre 1 euro, vous avez prononcé un mot en anglais. Il n'y a pas de speaker à Radio Courtoisie, il y a quelqu'un qui fait les annonces. Mais ça n'est pas grave, merci pour la radio. Je voulais plus sérieusement vous dire ce qu'il y a de très beau aussi, ils sont très acclamés, et à Vauban, ils forment un petit peu la couronne, ils sont au premier rang. Tous ces fauteuils sur le premier rang. Tout de suite après, il y a les enfants. Oui. Donc, il devait y avoir vous et vos guides juste derrière. Et c'est merveilleux de voir, si j'ose dire, l'avenir de la tradition qui est là au premier rang.
Oui, oui, oui. Les chapitres enfants sont remplis à ras-bord, quoi.
Oui, oui.
À ras-bord. Et ça fait partie de cette ferveur que j'évoquais tout à l'heure. Les adultes qui marchent, qui souffrent, on a l'habitude d'en voir. Mais des enfants qui chantent le chapelet, qui ont mal aux pieds, mais qui continuent à avancer, qui sont, comme vous le disiez, au premier rang à la messe, des messes qui durent des heures, en plein cagnard, en plein soleil, après avoir marché toute une journée. C'est porteur. C'est porteur non seulement dans notre foi, mais c'est porteur d'espérance pour la suite.
Et là, vous disiez au début de cet entretien, Gabriel Holmer, que beaucoup de fidèles attachés à la tradition se sentent un petit peu isolés dans leur coin reculé. Il y a des étrangers qui doivent être eux aussi très isolés. Moi, j'ai souvenir d'une Libanaise qui était émerveillée parce que c'est ça, on voit non seulement beaucoup quantitativement, mais aussi on voit qualitativement une ferveur, une générosité, un don. Parce qu'on vous dit, oui, les jeunes aujourd'hui, à part les tablettes, à part le virtuel, ne font rien. C'est la génération Z, Y. Et là, non. On les voit généreux. Et vous avez dû voir ça à travers vos guides, bien sûr.
En fait, je pense que cette... cette génération est en effet uniquement attirée par les écrans, comme vous disiez, enfin tous les clichés de la génération Z, mais simplement parce qu'on ne leur donne pas de quoi regarder ailleurs. On ne leur donne pas de... On leur inculque pas de valeur, on ne leur donne pas de but. Et donc évidemment, vous allez vous replier sur ce qui est de plus simple. Et les écrans, c'est simple, les réseaux sociaux, c'est simple, ça ne demande pas d'exigence. Marcher 108 km, c'est moins exigeant, c'est plus exigeant, pardon. Mais en fait, quand vous leur donnez un but, un idéal surtout, ils peuvent les marcher. Et comme vous le disiez, moi j'ai accompagné pendant des années des guides sur ces routes-là. Bah, elles n'ont pas le droit à leur téléphone pendant 3 jours et tout le monde s'en porte très bien et elles marchent leurs 100 km et elles pleurent à l'arrivée mais elles reviennent l'année d'après. Donc c'est une génération qui a juste soif d'un idéal et quand on leur donne, c'est une génération qui à mon avis peut aller très loin.
Vous dites qu'elles n'ont plus de téléphone, en réalité elles ont changé d'opérateur, elles sont connectées sur le ciel.
Exactement.
C'est ça qui est merveilleux. C'est merveilleux.
Et en direct.
Et il y a du réseau, même en race campagne.
Je ne suis pas sûre que les plaines de la Beauce captent la 5G, mais en tout cas, pendant les 3 jours
mais
du pèlerinage,
ils
captent la Sainte Vierge et le Sacré-Cœur de Jésus, c'est sûr.
Donc ça, c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Et je voulais vous demander aussi, lorsque... Bon, on a bien compris, vous, depuis 15 ans, vous faites ce pèlerinage, vous avez guidé des guides, si j'ose dire, mais il y a peut-être aussi des gens qui n'ont pas eu les grâces que vous avez reçues. Est-ce que vous avez vu des personnes qui... à l'occasion du pèlerinage, ont un peu découvert ce monde.
Beaucoup. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit la majorité, mais il y en a quand même beaucoup des convertis qui font leur premier pas dans le monde tradit, si je puis dire, par le pèlerinage et c'est exaltant. Parce que c'est pas avec un prêtre en particulier, c'est pas un ami en particulier qui les guide. Là, ces gens-là prennent conscience de l'ampleur et de la qualité de la spiritualité, de la fraternité, puisque c'est un pèlerinage qui ne regroupe que des membres de la fraternité ou du moins des personnes qui acceptent l'enseignement de nos abbés, etc. Moi, je l'ai vu, par exemple, même chez mes guides, des guides qui faisaient leur premier pas dans le scoutisme parce que ça faisait partie du package, le scoutisme, le pélé, la messe à Saint-Nicolas, enfin, voilà. Et qui arrivaient à ce pèlerinage, je vais vous donner un exemple. Elle ne savait pas bien ce qu'était le pèlerinage. Une guide qui arrive, elle n'a ni tapis de sol, ni sac de couchage. Elle arrive sur le bivouac, toute la compagnie s'est serrée sur plusieurs pour qu'elle ait une place sur un tapis de sol et qu'elle ait un bout de sac de couchage partagé avec une autre qui partageait elle-même avec une autre. Et donc, au-delà du côté intellectuel de la religion, elle a vu concrètement l'entraide, la charité.
En acte.
En acte, exactement.
Alors, je rectifie du tout pour les auditeurs. Je traduis, il n'y a pas de package. C'est un pactage, bien sûr.
Pardon.
Mais je voulais vous demander, alors là, c'est la question que je ne peux pas vous poser l'année précédente ni l'année d'après, parce que chaque année, c'est un thème différent. Bien sûr que le pèlerinage vous intéresse, puisque vous dites, même si j'ai plus envie de le faire le lundi soir, dès le mardi matin, je me réinscris pour l'année suivante. Mais quand même, il y a des thèmes qui vont être plus porteurs, plus intéressants. Et là, j'ai envie de vous demander pourquoi celui-ci doit décider. Et là, ce n'est pas pour vous, mais peut-être pourriez-vous dire aux auditeurs pourquoi il faut faire quelque chose là. Parce que quel est le thème cette année? Qu'est-ce qui vous fait marcher, Gabriel, cette année?
Cette année, le thème, c'est envoyer des ouvriers à votre moisson.
Alors, c'est qui les ouvriers? C'est quelle moisson?
Les prêtres. Donc, l'idée, c'est de demander des vocations. De prime abord, on pourrait croire que ça n'intéresse que les hommes qui ne sont pas encore mariés et qui peuvent s'intéresser à la vocation. En réalité, c'est un thème qui, en tant que catholique, nous touche tous, puisque le prêtre distribue les sacrements. Et que sans prêtre, on ne peut pas parvenir au ciel. Et puis, il y a une crise des vocations qui touche l'Église, qui touche même les branches tradies de l'Église. Alors que les fidèles croissent et se multiplient, on a donc toujours besoin de plus de prêtres, toujours besoin de plus de saints prêtres. C'est un thème qui nous touche tous. Et puis, cette année, alors, ça n'a rien à voir avec le thème, mais arrivent les sacres pour la fraternité, et ça nous conforte dans cette idée qu'on ne sacre que parce qu'on a besoin de prêtres, et parce qu'on a besoin de bons prêtres. Et c'est bien joli de penser que ça arrivera chez le voisin, mais il est du devoir de tous de prier pour que ça arrive chez nous. Alors pas moi personnellement,
merci
chez nous, dans
rassurer,
la fraternité.
Merci de nous rassurer, Gabriel. Mais alors, donc c'est ça, premier message de Gabriel Maire, la vocation, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est ça que vous voulez dire?
Bon, ça, en tout bien. Cas, on doit tous prier pour que ça arrive, quoi.
Ça, c'est le premier message, au moins c'est clair, on reçoit 5 sur 5. Et puis donc, vous vous dites, c'est bien gentil après chaque messe de dire, donnez-nous des prêtres, donnez-nous des saints prêtres et beaucoup de saints prêtres. Mais vous dites, oh, il faudrait peut-être un petit peu mériter et donc marcher. Et au moins, on sait à quoi serviront les crampes et les ampoules.
Exactement.
Cette fois-ci, cette année.
Et le pèlerinage est toujours un moment très propice au sacrifice corporel, donc autant en profiter. Voilà.
Et alors, il y a cet aspect pratique quand même un petit peu. Vous parliez du bivouac. Comment est-ce que ça se passe? On doit apporter sa nourriture. Parce que vos guides se font livrer par Picard des plats tout prêts. Comment est-ce que ça se passe? Dites un peu.
Alors, il y a plusieurs, encore une fois, plusieurs formules. Les adultes sont assez autonomes sur le bivouac, donc apportent leur tente, apportent leur nourriture, bien que le pèlerinage fournisse, il me semble, du pain pour les repas, de la soupe le soir. Mais ils restent assez autonomes. Il faut avoir dans son sac ce qu'il faut pour 3 jours. Mais les enfants et les adolescents sont pris en charge par le pèlerinage, qui, par exemple, les loge sous tente commune. Donc, les enfants n'ont pas à penser à leur tente 2 secondes. Et pour les repas, c'est la même chose. C'est un repas qui est fourni par le pèlerinage, préparé par des bonnes âmes qui s'occupent de ça toute la matinée pour le déjeuner et toute l'après-midi pour le dîner. Donc, tout est prêt, tout est chaud. Mais pour les adultes, effectivement, il faut penser à prendre tout ce qu'il faut pour les 3 jours.
Alors, dernière question. Là, je vous demande un petit effort d'imagination. Je n'ai plus 72 ans. J'en ai 17, je suis mal rasé, acnéique, et j'ai les écouteurs de la génération Y. Je vous dis, comme tous les gens de cette génération, bof, à quoi ça sert? Secouez-moi.
Mais la première chose, c'est allez-y pour voir. Allez-y pour voir, tant que vous n'y avez pas été. Tant qu'on ne l'a pas fait, ce pèlerinage, on ne peut pas se rendre compte de la ferveur qui en émane. Donc, allez-y pour voir. Retirez vos écouteurs, écoutez les prières, écoutez les chants, écoutez les discussions entre amis qui sont très porteuses, qui ne sont pas forcément très spirituelles, mais qui sont de bonnes discussions, qui sont très porteuses. Et puis pour un adolescent qui ne se bouge pas, fais un peu d'exercice physique. Ça aide aussi. Marche 100 km et tu verras. T'en es capable.
Et vous avez tenu ce discours, vous avez amené des amis comme ça, vous-même, ça vous est arrivé de proposer à des gens qui voulez peut-être découvrir, mais de loin, vous leur avez dit, et marche,
exactement.
Vous avez fait ça.
Alors, lève-toi et marche, j'en ai pas la prétention, mais j'ai essayé en tout cas de en racontant un peu mon expérience, et comme je vous le disais encore tout à l'heure, je suis pas du tout quelqu'un de sportif, donc si je le fais, tout le monde peut le faire, vraiment. Et donc oui, j'ai ramené quelques amis qui en fait ont apprécié. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible à la communauté, au fait que sur 5000 personnes, tout le monde veut la même chose, à savoir encore une fois le salut de son âme. On ne peut pas rester insensible à ça. Vous voyez la procession du dimanche pour la messe pontificale, où on voit toutes ces soutanes qui défilent, ça ne peut pas laisser insensible. Je pense que même un incroyant serait touché, ne serait-ce que de la solennité du moment. Donc même quelqu'un qui n'a pas été très motivé, qui est un peu allé en traînant des pieds et tout ça, moi j'en ai vu beaucoup parce que, comme je vous l'expliquais, dans notre groupe scout, ça faisait partie des activités. Donc j'avais pas mal d'ados qui, en fait, n'avaient pas très envie d'y aller, mais ça faisait partie du planning, et donc s'y rendaient. Et en fait, vous n'en sortez pas indemne, quoi qu'il arrive. Donc, il faut juste y aller.
Cette expérience, on la voit aussi, il me semble, quand on entre dans Paris. Il y a quantité de badauds, des Japonais qui, avec leur téléphone, prennent des photos. Mais ils sont quand même marqués. Et on voit des badauds qui deviennent un petit peu des pèlerins, enfin, qui suivent, enfin, qui se disent « Mais où est-ce que vous allez ? Pourquoi ?» Ils doivent poser quantité de questions. Ils se posent des questions, ils en posent.
Il me semble qu'il y a un groupe de personnes qui encadrent la procession de manière assez informelle, avec des médailles miraculeuses, et qui sont là un peu pour répondre aux questions des gens qui se demandent ce qui est en train de se passer. La tête de colonne, alors je ne sais plus si c'est avant ou après la procession des prêtres, mais il y a une grande banderole qui est tenue par des scouts qui explique en quelques mots que c'est un pèlerinage pour le Sacré-Cœur, etc. Donc les gens ont les premières idées. Malheureusement, aujourd'hui, peu de gens savent à quoi ça renvoie. Mais donc, il y a cette légion de personnes sur les côtés de la colonne qui explique, qui donne de plus amples informations et puis surtout qui distribue des médailles de la Sainte Vierge qui ensuite, elle, travaille de son côté au fond des âmes, quoi.
Et ça, oui, ça, je pense aussi, on ne sort pas indemne de ce spectacle, enfin, voir Paris en été comme ça, traversé par ces pèlerins, c'est une émotion enfin, importante, enfin, on ne peut pas faire autrement, oui, ça je pense aussi. Et vous dites, oui, il y a plusieurs milliers de pèlerins, et je crois que l'année dernière, c'était 8000
à
Place
Vauban,
c'est ça. Donc, 8000 l'année dernière, donc 10000 cette année, évidemment, c'est ça.
Pour les vocations, on espère.
Évidemment. Bon, bah alors, je vais redire aux auditeurs de Radio Courtoisie, j'avais la joie de recevoir Gabrielle Holmer, qui nous a expliqué pourquoi elle faisait le pèlerinage de Chartres pour la 15e année consécutive, et pourquoi nous devions le faire, nous aussi. Merci pour votre enthousiasme. Et on peut avoir donc tous les renseignements qu'on souhaite sur le site www.pèlerinage, sans accent, mais avec un S de tradition, tout accroché, .com, et on peut écrire aussi à pèles, sans accent, .tradtrad@orange.fr. Et sinon, c'est 20 rue Gerbert, et donc on peut souhaiter, comme les pèlerins de Saint-Jacques-Compostelle, Outreia, quoi. Il faut avancer, progresser, aller plus loin, plus haut, et c'est très beau. Un grand merci, à bientôt.
Merci à vous, monsieur Abbé.
Merci beaucoup. J'ai la joie de recevoir maintenant alors le père et le fils, c'est-à-dire Bernard Gélinot et l'abbé Louis-Marie, son fils, tous les deux musiciens qui vont nous parler de ce camp d'été Vox Cantorum qui a lieu à Couloutre. Monsieur Gélinot, bonjour.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Voilà. Alors, vous êtes, j'allais dire, père de famille et aussi un peu chef d'orchestre de votre famille, parce que tous vos enfants sont musiciens.
Oui, voilà, mais c'est sûr, oui, effectivement.
Donc vous menez vos enfants à la baguette, c'est
exactement,
ça?
Exactement, tout à fait.
C'est bien, c'est ça. Alors, et l'abbé va nous montrer, effectivement, qu'il est parfaitement formé comme il faut.
Ça ne les empêche pas d'être très souriants.
Mais voilà, je vois, exactement. Alors, je vais vous demander, vous, quel est votre instrument?
Le corps.
Le corps, très très bien. Et vous?
Bonjour, monsieur l'abbé. Donc, je joue du violoncelle et puis également de l'orgue. Voilà.
Et on peut dire, parce que vous êtes père d'une famille nombreuse, alors ce n'est pas un orchestre symphonique, mais on s'en approche. Vous avez combien d'enfants et pouvez-nous dire, quand vous arrivez à vous réunir, certains sont dans des couvents, ils ne peuvent plus venir, mais quand vous réunissez, vous avez tous les instruments.
Non, pas tous les instruments quand même. Non,
mais quels sont les instruments?
Une petite formation baroque.
Oui,
donc voilà, c'est tout à fait typique, puisqu'en fait, nous avons le quatuor à cordes complet, avec un altiste en plus, dans l'ensemble des enfants, plus deux cornistes, deux oboïstes, et un trompettiste, et une personne au clavier aussi, une pianiste.
Alors ça, c'est les musiciens, et ces gens-là chantent aussi?
Tous.
Et vous avez tous les pupitres?
Oui, tous les pupitres, on se débrouille. Oui. On n'a pas des vraies basses, mais on a par défaut deux fils qui ont joué la partie de basse, qui chantent la basse. Mais sinon, on a beaucoup de ténors, et puis les voix d'alto et de soprano, pas de problème.
C'est formidable. Alors donc, on peut dire que ce camp d'été que vous proposez, Vox Cantorum à Couloutre, ça repose sur une solide expérience.
Oui, c'est une continuité. Continuité, en fait, dans le bonheur que nous avons eu dans notre famille, eh bien, nous souhaitons le faire partager à un maximum de familles et qui pourraient, de cette façon, comme la famille Trapp, comme la famille Bach, comme la famille, etc., et d'autres familles en France, aujourd'hui encore, qui sont très, très, très honorables, et qui participent exactement à la même démarche de faire connaître la musique et de la pratiquer eux-mêmes au quotidien ou au moins hebdomadairement.
Alors, je vais vous poser quand même la question de confiance. Puisque vous dites que c'est votre famille qui s'élargit, vous faites bénéficier de tout ce que vous avez apporté à vos enfants, est-ce que ce camp d'été se déroule vraiment dans une atmosphère familiale? Parce que moi, j'ai souvenir des cours de solfège, c'est pas vraiment amusant, c'est pas très drôle. Est-ce que c'est vraiment dans une atmosphère famille?
Alors, je vais peut-être laisser l'abbé parler, parce que il va vous redresser le... Vous dressez la genèse de cette
exactement,
opération
exactement.
Et qui maintenant devient effectivement un peu complète, exactement. Alors qu'elle n'était pas au départ.
Vous qui avez été le premier bénéficiaire, dites-nous toute la vérité, rien que la vérité.
Voilà, donc le camp Vox Cantorum, c'est parti d'un projet alors qui lui-même ne vient pas de notre famille. Enfin, c'est-à-dire que c'est M. Lafaura d'Yvonne que vous avez reçu le mois dernier, qui avait commencé quelque chose autour de sa manécanterie. Et donc avec un petit camp sous tente à Mérigny en même temps que les sessions. Et puis, M. l'abbé Thibaud de Maillard, quand il était encore séminariste en 2014, commencé à organiser, on était sur plusieurs projets ensemble, et a commencé à organiser ce camp Vox Cantorum, lui qui avait été élève de M. de la Forêt d'Yvonne, étant enfant. On a commencé à la Pérate en 2015, puis à Châteauroux, j'ai commencé à participer en 2016, Thibaud de Maillard avait commencé, et puis enfin à Couloutre à partir de 2024. Et au début, pour s'occuper des enfants, des garçons, comme beaucoup de camps qu'on fait quand on est séminariste à Écône, on fait des camps pour les garçons, et un camp où on apprenne à chanter, où on aille un petit peu plus loin que simplement le fait de chanter, mais apprendre aussi à chanter, comment est-ce qu'on fait pour chanter. Qui a certaines capacités, mais en s'amusant, parce qu'effectivement, on a de mauvais souvenirs de nos cours de solfège. Donc le solfège, c'est le mot qu'il ne faut pas employer, mais même en classe, quand on fait faire une dictée un petit peu ludique aux enfants, et après ça, on leur dit « vous avez fait une dictée », et bien, alors, ils sont tout étonnés d'avoir réussi à faire une dictée qui est un jeu, une dictée musicale qui est un jeu. Donc, formation ludique, on les fait jouer pour écrire des partitions. On court, poser son œil sur les lignes qui sont tracées au sol, un peu plus loin, à quelques mètres. Et ça, on le doit pas mal à l'abbé Thibaud de Maillard qui a fait tout un travail pour constituer ces jeux. Quel autre exemple je peux vous donner? On fait un béret, mais on ne fait pas un béret en appelant 1, 2, 3, 4. On fait un béret en en chantant. Et puis, celui qui a Do Ré Mi sur son papier court le plus vite possible et reçoit une récompense parce qu'il a gagné son béret. Donc, toutes ces choses ludiques. Donc, au début, on est sur cette proposition pour les enfants. Et puis, au fur et à mesure, germe l'idée, les familles nous disent « Mais vous ne pourriez pas faire quelque chose pour les filles, vous ne pourriez pas faire quelque chose pour les plus grands. » Il commence à y avoir cette sollicitation pour aller plus loin. Et là, quand on arrive à Couloutre, on a un espace suffisant. Bon, à Châteauroux, on avait déjà un espace suffisant. Mais à Couloutre, le cachet, je dirais, des lieux... est plus important que propice.
C'est très simple. À Châteauroux, la Martinerie, c'est une caserne, et à Couloutre, c'est un château.
C'est un château,
la même chose.
Tout à fait. Donc, un château,
très joli parc. Très joli
voilà,
parc.
Puis une belle acoustique dans la chapelle, une possibilité voilà, de s'organiser d'une certaine manière qui était plus simple pour les familles. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, voilà, on répond, on a fini par appeler cette session, cette académie, on peut dire, académie musicale, chant grégorien en famille, puisque sur cette semaine du 19 au 25 juillet, on reste sur le chant grégorien, principalement, et donc on a les familles. Peut-être on vous a apporté un extrait.
Vous le demander voilà. Parce que c'est bien de parler de la musique, mais si on pouvait laisser parler voilà. La musique elle-même.
Donc c'est du live, hein, c'est du vrai live. Hein, donc on entend les bruits.
Il n'y a pas fait... de live ici. c'est pris de façon vivante. Exactement. Je vais demander alors à Benoît de donner le premier échantillon que vous nous avez préparé. Je demande à Bernard Gélinot, que j'ai la joie de recevoir avec son fils, l'abbé Louis-Marie Gélinot, qu'est-ce que nous venons d'entendre ? Ce sont des voix d'enfants, il n'y a pas de doute.
Voilà,
qu'ils chantent ?
Eh bien, c'est les enfants du camp chantant qui chantent la messe de la Sainte Vierge au samedi. Et donc, c'est la communion de Beata Vichera de la messe de Sancta Parens, Et c'est l'objectif qu'on se donne quand on reçoit les enfants en début de semaine, c'est qu'on arrive à leur faire chanter une messe, voire quelquefois un enfant pourrait presque diriger. Si on a quelqu'un qui est assez habile et avec lequel on travaille un peu la chironomie aussi également, la direction. Donc on essaie de parcourir tout le processus depuis la découverte jusqu'à la réalisation finale.
Alors, question que je pose à votre fils, monsieur l'abbé, des enfants, quel âge ? Je dis ça parce que vous êtes éducateur, vous avez été directeur...
Mon père aussi,
directeur d'école.
Directeur de conservatoire, mon père.
Ils ont quel âge et comment est-ce qu'ils répondent justement ?
Voilà, donc on a diverses tranches d'âge. Au fur et à mesure, on a installé diverses tranches d'âge. On avait commencé avec un pôle d'enfants entre le CM et la 6e, c'est 6e, 5e, fin du primaire, début du collège, qui sont très réceptifs à cela. Les activités mises en place, la manière d'aborder le chant fonctionnait très bien. On a eu des enfants plus petits, on a même eu des enfants qui n'étaient pas encore en CP, pas beaucoup, hein, mais un ou deux. C'était problématique pour leur faire lire les notes ou les signes ou ce qu'on voulait leur faire lire. On avait des astuces pour leur permettre de commencer le solfège grégorien sans avoir cela. Et puis ensuite, depuis qu'on est arrivé à Couloutre, on a développé pour les adolescents, grâce à la partie qui s'étend, grâce aux adultes, à la session pour les adultes, le fait de reprendre un petit peu ce qu'on avait à Mérigny, d'avoir une session pour les adultes, nous permettait d'englober des adolescents. C'est ça qui est un petit peu complexe sur l'affiche. Les gens, comprennent pas, mais alors qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il? Les adolescents vont participer d'une part à une session un peu plus à la table, et d'autre part, avec les plus jeunes, voilà, à quelques jeux où ils ont une fonction particulière, parce qu'évidemment, il n'y a pas exactement le même répondant sur des enfants qui ont travaillé la musique, hein. Il n'y a pas le même répondant à 15, 16 ans qu'à 11, 12 ans, qui est l'âge médian, enfin l'âge optimal, je dirais, du camp Vox Cantorum, première mouture. Voilà.
On peut peut-être déjà d'ailleurs donner aux auditeurs Radio Courtoisie les dates. Donc Couloute, c'est dans la Nièvre, c'est pas très loin de Cône-sur-Loire, ou de Nevers, c'est-à-dire donc de Sainte-Bernadette, puisqu'elle est enterrée là. C'est du 19 au 25 juillet, donc c'est très central, c'est le centre de la France, c'est un peu plus simple. C'est pour enfants, c'est pour adultes aussi, c'est pour garçons, c'est pour filles, je vous pose des questions, tout ça. Et puis après, je poserai une question à Monsieur Gélineau, mais je la réserve.
Donc on a les garçons, comme je disais, donc de 8 à 13 ans, puis de 14 à 17 ans, c'est-à-dire qu'on a bouché le trou pour aller jusque pour avoir tous les garçons. Ensuite, on a donc les adultes, donc dans lesquels on joint des jeunes filles qui facilement suivraient une session. On a considéré qu'à partir de 15 ans, elles avaient la capacité à suivre une session avec les adultes chez les jeunes filles. Les garçons ont souvent besoin de moments où ils vont jouer au foot. Voilà.
C'est un vrai camp de vacances.
Voilà. Voilà. C'était l'abbé Thibault de Maillard, il tenait. Il y a des moments de récréation où on joue au foot. Voilà, très important pour changer. Et voilà, donc si on peut dire, c'est comme ça un peu qu'on a construit l'affiche. On a autour de la messe, hein, tout le monde chante le chant grégorien. Et je pense que votre question complétera sur la petite partie que je mettrai. Les jeunes garçons apprennent à chanter le chant grégorien, comme ça, voilà, ils sont bien préparés. Les jeunes filles, le père, les étudiants, sont là. Le père, lui, il est sollicité pour diriger la chorale, parce que fait un père de famille qui a pu, ça viendra dans quelques temps, faire le camp Vox Cantorum quand il était petit, et après ça, il dirige la chorale de sa paroisse, et se dévoue avec... les petits qui tiennent le pupitre. Voilà. Ainsi, on a vraiment une possibilité de participer à la liturgie. Et je laisserai papa compléter avec votre question que je devine.
Alors, vous devinez, parce que moi, je vois en haut du tract à droite, Pédagogie Ward. Qu'est-ce que c'est que la Pédagogie Ward?
Eh bien, écoutez, c'est une préparation à la pratique du chant et des instruments également. En finalité, on peut aussi on aura les connaissances suffisantes pour pouvoir aborder la pratique instrumentale. Mais l'objectif principal et premier, c'est vraiment que tous puissent chanter. C'est le titre du premier livre que j'ai là devant moi et qui fait l'objet d'une pédagogie très 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 bien préparée par Madame Ward. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la pédagogie Ward, parce que c'est Justine Ward, une protestante concertiste, pianiste concertiste protestante qui s'est convertie grâce au chant grégorien en 1903, en même temps que le pape Saint-Pie X écrivait son Motu Proprio. Et donc, de là, elle a voulu vraiment faire quelque chose quand elle a découvert cela. Elle s'est dit, mais pourquoi on m'a jamais fait entendre ça, quoi. Et cette musique qui est si merveilleuse. Et donc là, elle a eu l'idée qu'il fallait le faire savoir à tout le monde. Et donc, de ce fait-là, elle a développé une pédagogie pour pouvoir apprendre aux enfants à l'école primaire. Et maintenant, on essaie d'avancer et de commencer plus bas, même à l'école maternelle, puisqu'on est obligé d'aller à l'école plus tôt maintenant. Mais à cette époque-là, en 1930 à peu près, en France. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle a déménagé des États-Unis pour venir s'installer en France, à Solesmes, et elle a fini sa vie à Solesmes, cette dame. Oui. Et donc, elle est allée voir Dom Okro à l'abbaye, et elle a travaillé avec Dom Okro pour établir ce cursus pédagogique pour arriver à ce que tous les enfants, à la fin de l'école primaire, soient capables de chanter du chant grégorien. Ce qui est notre objectif du camp chantant, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on se retrouve sur la même longueur d'onde. Mais aujourd'hui, Ça n'est plus enseigné dans les écoles catholiques, malheureusement, très peu, à part chez les dominicaines de Fanjo. Mais ailleurs, ça n'est pas enseigné de manière vraiment épistolaire, à quelques endroits, enfin quelques écoles particulières, mais c'est très peu enseigné, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment une formation de la voix pour les petits-enfants qui est vraiment remarquable, et qui est basée sur la compréhension du grand rythme. Qu'est-ce que c'est que le grand rythme? C'est l'art de bien dire les choses. Je vais vous lire juste un petit commentaire de Don Gajar qui avait été écrit en 1934 quand il a fait la recension des premiers livres qui sont parus. Il dit « Quant à l'enseignement du rythme, c'est la caractéristique principale de la méthode Ward. La perfection est réclamée sur ce point dès le début. Et par rythme, nous n'entendons pas ce sens plus ou moins vague de la mesure matérielle que l'on essaie de donner aux enfants qui commencent le piano, mais le rythme proprement dit, la belle ordonnance du mouvement, ce que l'on nomme le phrasé dans nos sessions de chant grégorien. Grâce à cette succession d'élans et de retombées, ces phrases qui s'élancent, qui se retombent, eh bien, l'enfant concrétise aisément le rythme phraséologique qui apparaît non plus comme une succession de sons plus ou moins accentués, mais comme le bel ordre dans le mouvement qui est l'âme de chaque mélodie. »
C'est magnifique.
Voilà ce que disait Don Gajar en 1934, et je pense, je fais complètement cause commune avec ce qui est écrit, pour essayer d'enthousiasmer les gens que je reçois, pour leur donner les moyens pédagogiques pour le réaliser.
Et là, voilà. On voit que le chant grégorien est une prière, donc une élévation de l'âme. Voilà. C'est exactement ça.
Bien sûr, le chant grégorien n'utilise que la mélodie, et justement, c'est la fine pointe de l'âme. Alors que dès qu'on va passer à la musique polyphonique, on va être dans le sentiment. Les accords, c'est le sentiment. Je ne parle pas de la musique d'aujourd'hui, syncopée et extrêmement rythmée, qui là, descend encore un peu plus bas. Et là, c'est regrettable que la majorité des gens n'écoutent que cela. C'est regrettable. Là, y a, dans le répertoire de la chanson populaire française, par exemple, il y a un trésor qu'on n'utilise pratiquement pas. Pratiquement pas.
Mais j'ai envie de vous dire, alors, ces enfants qui viennent apprendre le grégorien chez vous, sans le savoir, sans le vouloir, vont être élevés et peut-être même un petit peu éduqués, eux qui entendent quantité de musique rythmée, comme vous le dites, et qui les sollicitent plutôt en les tirant vers le bas, ouais. Il faut avouer, c'est plus au niveau là, des viscères. et vous allez finalement leur faire comprendre qu'il y a une grande différence. Sans faire de grands exposés abstraits, ils vont faire la différence eux-mêmes. Et ils vous diront à la fin, il n'y a pas photo. Ils vous diront entre le grégorien qui nous élève et puis cette musique qui, elle, nous sollicite par le bas, on voit tout de suite...
Alors, un compositeur illustre parfaitement la synthèse qu'on peut avoir entre justement de belles mélodies et un accompagnement quand même qui soit au-dessous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir d'accompagnement. Et je ne renie pas la musique qui va venir après le chant grégorien. Mais simplement, il faut la mettre à sa place. Et donc, par exemple, Mozart a un génie mélodique qui s'approche très près du chant grégorien. Sans doute parce qu'il avait compris ce que c'était que le chant grégorien. Et donc, il a essayé de s'imprégner de cela et pour écrire d'une musique qui soit vraiment limpide, qui nous entraîne, qui nous emporte. Et il suffit de prendre la majorité des thèmes de concerto, d'instruments, par exemple, ou peut-être pas les œuvres d'opéra, mais dans le domaine mélodique, je dirais, instrumental, purement instrumental, il y a vraiment des phrasés magnifiques, magnifiques, qui sont très proches de ce que nous exigeons dans le chant grégorien quand nous exécutons une pièce.
Au fond, j'ai l'impression qu'en éduquant la spiritualité, la sensibilité, vous éduquez la spiritualité. Enfin, c'est ça.
Il y a un lien.
On constate même, oui, par rapport aux autres camps, parce que comme séminariste, on en a fait des camps, on a vu des enfants, j'ai même les séminaristes qui viennent, que je dois suivre en tant que directeur et prêtre, et qui me disent, mais par rapport à d'autres activités avec les enfants, on a beaucoup de mal dans d'autres activités avec les enfants. On leur fait des topos, on les réunit pour des temps de prière. On a beaucoup de mal à élever les choses, à avoir une ambiance plus spirituelle, une ambiance plus chrétienne. Et là, finalement, on se faisait la réflexion, aucun Vox Cantorum. Alors oui, on va chanter les complis le soir, mais en matière de topo religieux, il y a un petit sermon le matin à la messe, mais il n'y a pas de choses qui viennent s'ajouter, et pas de temps de catéchisme particulier. Et finalement, on a des enfants qui répondent encore mieux du point de vue des vertus chrétiennes, de la vie chrétienne. Donc ça, c'est quelque chose...
Mais parce qu'au fond, ouais. Cette formation spirituelle, elle n'est pas plaquée
oui.
De façon artificielle. C'est pas du toc.
C'est la liturgie. Hein.
C'est ça. En réalité, c'est ça. On sollicite de l'intérieur et l'âme est élevée.
Notre but, c'est que ça se reproduise le dimanche. C'est pour ça qu'on dit chant grégorien en famille. C'est que le dimanche à la messe, on retrouve la famille qui fasse la même chose qu'à Vox Cantorum, qui soit, voilà, papa en train de diriger... quelques garçons qui servent la messe sans doute, et puis d'autres garçons, jeunes filles qui sont à chanter parce que elles ont appris, les filles dans les écoles dominicaines, elles ont chanté beaucoup, les garçons ils ont chanté longtemps à l'école, mais grâce à Vox Cantorum, non seulement ils ont beaucoup chanté, mais ils ont appris comment chanter. Il y a une formation vraiment technique qui permet, on a des enfants à la fin du cours Vox Cantorum, on leur fait passer un examen. Et là, on leur fait déchiffrer, on leur donne la pièce de Grégorien comme ça, et puis ils la déchiffrent, là on leur donne le coulissement noir, ils ont un diplôme à la fin, donc on leur donne le coulissement noir, parce qu'ils sont capables de déchiffrer, de maîtriser eux-mêmes la lecture du Grégorien. Alors bien sûr, ils peuvent apprendre encore beaucoup de choses, et ensuite ils vont aller en session de direction. On a un exemple qui était en session de direction l'an dernier à Mérigny, qui cette année va nous aider pour le camp Vox Cantorum comme encadrant, et donc il va pouvoir intégrer le cursus de direction pour compléter ce qu'il a appris lorsqu'il avait 10-12 ans au camp Vox Cantorum.
Je vais donner tout de suite les renseignements pratiques aux auditeurs avant de poursuivre cette conversation passionnante. Donc le camp Vox Cantorum a lieu à Couloutre, donc près de Cône-sur-Loire, près de Nevers. Et ça, c'est comme je le disais à l'instant, c'est dans la deuxième quinzaine de juillet, tout simplement, du 19 au 25 juillet. C'est pour les enfants, 70 euros, 250 pour les adultes. Et ça s'adresse à des garçons de 8 à 17 ans, les adultes et filles à partir de 15 ans pour le chant. Ça, vous nous donnerez quelques explications et un petit échantillon. Mais je donne surtout les contacts, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Quand .vox cantorum tout attaché, donc quand CMP point vox cantorum VOX CANTORUM @gmail.com, un téléphone 07 85 87 42 81. Je répète ce numéro de téléphone 07 85 87 42 81. Et on trouve tout ça aussi sur le site centregrégoriensaintpidis.fr. Donc centre-grégorien sans accent-saint en toutes lettres, SINT-PI-10X-10romain.fr. Et là, on a tous les renseignements. Mais je voulais vous demander. Justement, cette session, vous nous l'avez dit à l'instant, elle ne néglige pas les autres formes de musique, vous les mettez à leur place, c'est ça, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire, voilà, vous n'éliminez pas. Est-ce que vous avez un échantillon de chants qui ne soit pas grégorien?
Voilà, tout à fait.
On peut écouter?
Voilà, tout à fait. Le souhait, c'est de respecter les voix et donc d'avoir une tessiture qui soit vraiment bien, quoi.
Très bien. Alors, on va demander à Benoît de nous donner l'extrait en question.
Thank you.
nous avons écouté un fragment. Qui chante? Qu'est-ce qu'on chante?
Donc voilà, c'est le chant Ô Notre-Dame, le canon Ô Notre-Dame, qui est très connu, et bien sûr, et qui est chanté par les filles de la croisade eucharistique de Belgique, dans un CD qui est paru il y a peut-être 20 ans, au moins déjà maintenant, mais qui est un exemple de ce que l'on souhaite obtenir comme résultat quand on travaille la méthode Ward. C'est la qualité vocale, des voix vraiment bien posées, des voix qui soient dans leur tessiture. Donc le respect de la tessiture des voix, ça, Madame Ward était très 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 exigeante là-dessus. J'ai parlé du rythme tout à l'heure. Ça, c'est le point fort de la méthode Ward, c'est la prise de conscience du grand rythme. Mais au départ de la méthode Ward, c'est le travail de la voix, que tous puissent chanter. Et pour cela, il faut vraiment prendre des enfants pour des enfants et non pas les prendre pour des adultes. Donc il faut partir avec quelque chose d'extrêmement simple, mais extrêmement clair et prendre la voix la plus belle qui soit. Elle parle elle range les enfants quand elle les reçoit la première fois, le premier groupe d'enfants, elle les range en rossignol, rouge-gorge, pardon, rossignol, pinson et rouge-gorge. Donc ça veut dire les enfants qui chantent très très bien, qui ont une voix très très cristalline, très très les rossignols, et puis après les pinsons, pardon, excusez-moi, un petit peu moins à l'aise, mais quand même, qui chantent quand même bien, et puis les rouges-gorges qui ont un peu de difficulté à chanter, qui sont un peu enroués de la gorge. Donc on va travailler à demander aux enfants d'écouter la voix, les voix qui sont l'idéal des voix, avant de commencer à tout le monde brailler. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe. C'est que très souvent, malheureusement, quand on entend dans un pèlerinage, là, c'est un exemple que je donne, mais je crois que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Quand on entend au pèlerinage que certains groupes, c'est plutôt brailler que chanter. Et donc, le souhait, c'est que tout le monde chante. C'est vraiment que tout le monde puisse chanter.
C'est la traduction, c'est ça. La phrase, c'est bien chanter, c'est prier deux fois. Mais il y en a aussi qui comprennent ça comme chanter, c'est crier deux fois.
peut-être. Voilà. Donc voilà.
Pour montrer que vous avez le souci de tout respecter, je sais aussi que vous proposez un stage instrumental, si vous pouvez nous dire
voilà,
un petit mot.
Effectivement, c'est une demande des familles également, on continue dans ces demandes des familles, et donc à Couloutre, la semaine suivante, une personne avec qui on travaille, parce qu'on a aussi le groupe Sainte-Cécile, on a deux associations hein, dont on s'occupe, Madame Ben Abdallah, propose ce stage instrumental du 27 juillet au 2 août, histoire de constituer un orchestre éphémère, d'avoir différents instruments, et de proposer sans doute une solution à des familles qui mettent leurs enfants dans les conservatoires, mais qui sont un peu déçus, peut-être soit par le type de musique qui sont jouées en orchestre, c'est souvent de la musique moderne, surtout les orchestres de cuivre, mais pas que, ou d'un autre côté par le milieu dans lequel ils pourraient mettre les enfants qui ont un certain niveau instrumental, puisqu'on parle d'enfants de deuxième, troisième cycle, qu'elles puissent les mettre dans un stage où il y a une ambiance chrétienne. Donc c'est le but de proposer la même chose dans une ambiance chrétienne, et pour répondre encore une fois à la demande des familles, puisque le projet de Vox Cantorum, c'était répondre à la demande des familles.
Alors, je redonne tout de suite les coordonnées et on peut aller plus loin, puisque vous donnez aussi votre téléphone. J'en ai même un deuxième, c'est le 06 95 12 67 92. Et puis toujours, can.voxcantorum@gmail.com.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions dirigé par l'abbé Alain Laurence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 23 avril 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.